Vous êtes avec SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Eh bien aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler d'éducation, éducation française, francophone, notamment à Melbourne avec Anne Aubray. Bonjour Anne.
Bonjour Christophe.
Alors si vous êtes aux alentours de l'école de Caulfield, à un moment ou un autre, vous avez sûrement entendu parler d'Anne Aubray. Anne vient juste de prendre sa retraite. Premier quelques mois sans travailler dans l'enseignement. Tout d'abord, comment ça va?
Ça va très bien. Ça va très bien.
La retraite, c'est bien pour l'instant.
Jusque-là, c'est formidable. C'est un changement de cap, c'est un changement de vie. Moi, j'ai dit à mes collègues quand on a fait une petite fête à la fin de l'année, je leur ai dit, je ferme un livre. C'est pas un chapitre, en fait. Je ferme un livre de ma vie et puis j'en ouvre un autre.
D'accord.
Donc, le tout nouveau livre, je
le
viens de l'ouvrir.
C'est le tome 2, tome 3, tome...
Oula.
Tome X.
Mais voilà, pour l'instant, ce nouveau tome, il s'inscrit dans le cadre du voyage. Là, on rentre de Tasmanie, où on a passé un peu plus d'un mois. Et puis
il y a un grand voyage qui se prépare. On va en parler.
Il y a une idée il y a la France avant, puisque maintenant je pars quand je veux, veux où je veux. Donc il y a la France là dans deux semaines, et puis ensuite il y aura, oui, effectivement,
un grand voyage.
Premier très grand voyage.
Avec un projet. On va en parler. Combien d'années d'enseignement et combien d'années d'enseignement en Australie?
Alors, écoute, tu ne vas pas me croire, j'ai jamais fait exactement le calcul, mais j'ai pas assez de doigts en fait. Ça
D'accord.
Doit être pour ça, environ une quarantaine d'années dans l'enseignement, et puis la moitié de ma carrière à Melbourne.
Donc 20 ans dans, 20 ans au Caulfield Junior College.
Pas tout à fait 20 ans.
D'accord.
19, je crois. Oui.
Mais ça a dû énormément changer l'enseignement lui-même, et si on multiplie 30 élèves par 20 ans, ça commence à faire pas mal de petits Français, de petites Françaises ou francophones, parce que tout le monde n'est pas français.
Tout à fait.
Qui sont passés sur les bancs de l'école, mais sur les bancs de l'enseignement avec Anne Aubray.
C'est exact.
Sans faire
beaucoup
peur,
de victimes,
hein.
Beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes, oui. Oui, ça a beaucoup changé. Je pense que quelqu'un qui était là il y a 19-20 ans, qui reviendrait aujourd'hui en ayant quitté, bien évidemment, ne reconnaîtrait que les murs et encore.
Oui, parce que les murs ont été poussés.
Il y a eu des constructions, il y a eu des destructions. Oui, donc ne reconnaîtrait que certains murs, j'ai envie de dire, en fait.
L'enseignement lui-même a énormément changé en France aussi. Le programme a énormément changé. Mais est-ce qu'on sent qu'en Australie, on apprend et on enseigne littéralement différemment qu'en France? C'est une autre approche. Ou je me trompe?
Alors, non, tu ne te trompes pas. C'est une approche. En tous les cas, moi, je vais parler de Caulfield.
Caulfield, juste pour recadrer les gens qui ne sont pas ni à Melbourne, qui ne connaissent pas le programme, c'est un programme bilingue avec, en gros, une journée en français et une journée en anglais. Les programmes ont été mis ensemble. Donc, c'est un programme unique qui est livré par un binôme, un français un professeur en français et un professeur en anglais. Mais c'est le même programme qui continue. C'est un programme de unifié. Ou je me trompe?
Alors, non, tu ne te trompes pas. C'est peut-être pas, c'est pas unifié. C'est-à-dire que les programmes, notamment en maths, ont été alignés. Puis un enfant de 10 ans, qu'il soit australien ou de 6 ans, qu'il soit australien ou français, il a à peu près la même chose dans la tête. Donc, il peut apprendre les mêmes choses. Donc, du coup, les programmes de maths ont été alignés. Ça a été un travail sur plusieurs années de traduction, d'alignement, bien évidemment. Il y a quelques petites différences. Le programme australien parle parfois de certaines choses que nous n'abordons pas forcément en France. Donc, il a fallu arranger tout ça. Du côté du français et de l'anglais, c'est plus compliqué et c'est quelque chose qui va se faire. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Mais pour l'instant, c'est encore un peu balbutiant.
D'accord. C'est vrai que quand on est un petit peu à l'extérieur, on se rend pas compte, mais on fait les divisions différemment, par exemple. Division britannique, anglaise, et division française sont pas du tout la même chose. Moi, je comprends pas une division anglaise.
Moi non plus, mais j'ai jamais fait beaucoup d'efforts, je pense. C'est-à-dire que ce qui est important, je trouve que c'est quelque chose, ça, par exemple, de formidable, parce que les maths, c'est bien souvent, si on est bon en maths, c'est formidable. Si on est moyen, voire pas bon en maths, c'est du stress. C'est énormément de stress parce que c'est une science, c'est exact, hein, 2 plus 2, ça fait 4. Et puis, il n'y a pas moyen de changer ça. Alors qu'un arbre peut être joli, peut être beau, bon, déjà, on a deux façons de s'exprimer. Mais je pense que le fait que... Enfin, moi, j'insistais là-dessus avec mes élèves. Je leur disais, voyez, les maths, oui, ça fait peur. Oui, c'est plus fermé que la langue, quand vous vous exprimez via les maths. Pour autant, vous avez la chance ici d'avoir affaire à différentes méthodologies. Mmh. Et oui, tu as raison, Christophe, on ne fait pas une division française. On ne la pose pas de la même façon qu'une division anglo-saxonne. Les soustractions sont dans le même cas également. Et bien, ça permet de montrer aux enfants qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'arriver, par contre, à un même résultat.
Et ça, c'est important dans la philosophie de l'école également, parce que ça veut dire que pour les enfants, vous les mettez en face de deux ou trois ou quatre différentes façons de faire les choses, et celle qui leur convient, c'est celle qui leur conviendra.
Bien sûr, parce que une fois, alors il est évident que les enfants qui nous sont confiés dans la section française ne peuvent pas ignorer la façon de faire une division ou une soustraction à la française. Pour autant, les techniques sont enseignées du côté australien. Et après, moi, je leur disais toujours, une fois que vous maîtrisez les deux techniques, vous prenez celle qui a le plus de sens pour vous, parce que le résultat sera le même. Mais vous devez maîtriser les deux.
Mmh, absolument. C'était dur, parce que vous avez été là pour les années un peu formatrices de ce nouveau programme. C'était dur de mettre ces deux façons d'enseigner, ces deux programmes ensemble.
Alors,
il y a eu énormément de changements. Ici même, on en a parlé. Je me souviens, j'étais dans les bureaux quand le MOU a été signé avec le ministère donc de l'éducation du Victoria. Enfin, ça a été des moments clés. C'est des moments qui ont vraiment changé la donne pour l'enseignement à l'école et notamment à Caulfield.
Oui, tout à fait. Je me souviens effectivement de cette époque charnière. Ceci étant dit, je pense que ce sera toujours work in progress parce que d'abord...
Mais c'est la beauté du programme.
C'est la beauté du programme. Et puis, c'est vrai que les programmes dans tous les pays évoluent d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut toujours être au taquet et il faut toujours adapter ce que l'on peut. Oui, c'est compliqué. C'est très gratifiant, en revanche.
Oui.
Très, très gratifiant.
Ouais, j'imagine. Ouais.
Et puis, on a le sentiment d'offrir à nos élèves un plus grand champ de pensée. Et ça, enfin, moi, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, c'est tellement important de pouvoir penser à différents niveaux, dans différents registres. Ça, je vais peut-être un peu loin, mais je pense que ça finit par rappeler à la tolérance, parce que quand on comprend des systèmes différents, on les accepte quand ils sont acceptables, bien évidemment. Mmh. On les accepte d'autant mieux.
On va arrondir à 20 ans.
Oui, bien sûr.
Mais 20 ans, donc ça, je lisais, ça fait quand même beaucoup d'élèves qui sont passés sur les bancs de l'école et notamment sur les bancs de vos classes. Vous avez gardé contact avec certains élèves qui aujourd'hui, si on réfléchit, quelqu'un qui a un enfant qui avait 6, 7, 8 ans, 20 ans, c'est un jeune adulte, hein, 28, 30 ans. Ils sont dans la vie professionnelle. Il y en a beaucoup qui sont rentrés en France, mais d'autres sont restés ici. Ça vous arrive de croiser encore des élèves et ça fait quoi?
Alors oui, ça m'arrive d'en croiser. Alors, ça doit m'arriver aussi d'en croiser
sans
dans la rue, mais alors vraiment là sans le savoir, parce que je suis incapable de les reconnaître. Et parfois même, alors
ils
pour certains c'est plus évident.
Voilà, ils ont changé beaucoup plus que vous.
Mais les traits de visage, oui. Mais les traits de visage ont parfois tellement changé que je mets un certain temps à
me rappeler
de l'enfant qu'ils étaient. Parallèlement à ça, moi, je suis restée très amie ou du moins copine avec pas mal de familles, notamment des familles qui avaient des enfants de l'âge des miens. Et forcément, quand on se retrouve, eh bien, je vois leurs enfants. Donc oui, je suis toujours en contact avec certains enfants qui sont aujourd'hui des adultes. Eh bien, ça donne une très belle notion du temps qui passe.
Mais dans le bon sens du terme.
Mais dans le bon sens du terme, ce sont des enfants, moi, pour ceux que je côtoie, en tous les cas, qui vont bien. Donc, c'est très agréable. Et puis, ce sont des enfants qui ont des souvenirs de Caulfield globalement très positifs.
D'accord.
Et puis, lorsque j'ai pris ma retraite là en décembre, j'ai eu la surprise grâce à certains de mes collègues que j'en profite pour les remercier parce que c'était un grand moment. Ils ont réussi à faire venir à l'école, je crois que c'est une quarantaine d'anciens élèves des années précédentes, voire même des années Covid ou avant Covid, pour faire une haie d'honneur lors d'une petite...
La petite larme ou pas? Ou en tout cas la petite larme intérieure, non ça...
Allez, la petite larme intérieure.
Ouais, ouais. Ça touche.
Oui, ça touche énormément. C'est pas parce qu'on ne pleure pas.
Oui, oui.
Voilà, c'est pas parce qu'on ne pleure pas qu'on n'est pas touché ou ému. Ça remue à l'intérieur. Ça ne se voit pas forcément facilement de l'extérieur. Ça, je le reconnais. Mais à l'intérieur, ça bouge beaucoup.
D'accord. Là, on fait une courte pause. On revient dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. De retour dans le programme en français sur Radio SBS, deuxième partie de notre entretien avec Anne Aubray, institutrice à la retraite de l'école française de CJC, donc de Caulfield Junior College. Anne, parlons maintenant du tome 2, 3, 4 de la vie. On parlait en notre première partie d'entretien, un beau voyage après une vingtaine d'années d'enseignement en Australie. Vous avez passé un permis camion pour pouvoir vous permettre d'aller faire le tour d'Australie dans de très bonnes conditions. C'est ce que vous vous êtes promis. C'est quoi ce voyage? C'est un rêve? C'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis très 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 longtemps?
Alors, je crois que on a toujours... La chance aussi que j'ai, c'est que j'ai un mari avec lequel on vieillit ensemble de la même façon sur beaucoup de plans. Et le voyage, ça a toujours été quelque chose qui nous a tenu à cœur. On se connaît depuis longtemps, on a beaucoup voyagé quand on était plus jeune.
Pas jeune, plus jeune.
Très jeune, oui. On a beaucoup voyagé toujours avec l'idée de se dire, mais on n'est que de passage, on aimerait bien s'implanter ici, on aimerait bien s'implanter là un peu plus longtemps pour comprendre comment on vit là, comprendre comment sont les gens, pour aller au contact de choses différentes, de cultures différentes et de façons de faire différentes. Et puis l'Australie, il y a une vingtaine d'années, a répondu déjà à ce désir que nous avions de nous implanter quelque part de façon un peu plus, voire même beaucoup plus profonde. Et puis aujourd'hui, eh ben ce voyage, on a toujours envie de le vivre. Donc effectivement, où aller? Pourquoi se sédentariser? Je crois qu'on a toujours été un petit peu nomades dans nos têtes. Et puis maintenant, c'est l'occasion de pouvoir être nomade une grande partie de l'année.
Donc c'est c'est pas un camion, mais c'est un grand véhicule, un
Comment
gros véhicule.
Comment ça, ce n'est pas un camion? Bien un camion.
C'est gros comme un camion, en tout cas.
C'est un camion. Il faut une licence, enfin un permis poids lourd pour conduire cet engin. Donc oui, on a.
Parlez-nous un petit peu de l'engin en lui-même, parce que c'est plus qu'un camping-car.
C'est un camion 4x4 en fait, pour pouvoir passer à peu près partout sans se faire trop peur quand même.
Comme ceux qu'on voit sur le Dakar, et ça va un peu moins vite. Mais...
Alors ça, oui, ça va pas forcément. Le but c'est pas d'aller vite, même si parfois il faut peut-être, ça dépend des circonstances. Parfois il faut savoir aller un peu plus vite. Mais non, l'idée c'est vraiment de se balader. Donc pour commencer en Australie, sur plusieurs mois d'affilée, en prenant le temps. Éventuellement en s'arrêtant et en joignant une communauté et faire éventuellement avoir la possibilité d'être bénévole dans un domaine ou un autre au sein d'un village, au sein d'une
une communauté,
d'une région, enfin bon, peu importe, à la limite, on est très ouvert là-dessus. Et peut-être qu'on nous proposera d'ailleurs des expériences auxquelles on est incapable de penser aujourd'hui. C'est un camion donc 4x4 qui va être équipé là fin avril. On va dans le Queensland chercher la cellule, donc qui va être adaptée sur l'arrière du camion pour nous servir donc de maison sur roue.
D'accord. Et c'est totalement tout équipé, c'est-à-dire que vous pouvez y vivre dedans sans aucun problème.
Oui, monsieur. Il y a tout l'équipement. Oui, y compris la salle de bain. Il y a même une machine à laver.
Ah ben, ça va.
Voilà. Donc.
Ça, je sais que ça peut en faire rêver plus d'un des gens qui sont avec moi sur le Tour de France, parce que c'est ce qui nous manque quand on parle. Ce voyage, vous en avez parlé, là, ça fait un petit moment qu'il est réfléchi. Ça vous trotte dans la tête depuis combien de temps? C'est quoi? C'est 5 ans? C'est 10 ans? C'est un peu toute une vie? Vous saviez que vous alliez faire ça tous les deux après la vie professionnelle?
Alors, ça ne nous trotte pas dans la tête depuis si longtemps. Le voyage, oui, mais de cette façon-là, en étant nomade, en étant plusieurs mois sur la route, puisque le voyage que l'on prévoit de faire début mai devrait nous laisser sur la route pour 5 mois. C'est le premier grand voyage. Je pense que c'est le Covid qui nous a fait beaucoup réfléchir. Comme tout le monde, hein, on a été enfermés, on s'est sentis prisonniers. Je crois que privé de cette liberté pendant 2 ans, ça a changé beaucoup de choses en nous. Et notamment cette envie d'espace, cette envie de liberté. Donc je pense pouvoir dire que c'est né au moment sous cette forme-là en tous les cas. Le voyage, oui, mais sous la forme nomade avec un camion, c'est le Covid en fait qui nous a poussé vers ces horizons-là.
Je suppose qu'il vous tarde de partir, un peu de fourmi dans les jambes là quand même, non?
Oui, alors moi il me tarde de partir. Bon, tout n'est pas encore finalisé. On a la maison là qui est installée fin avril. Moi, tant que je ne serai pas au volant ou côté passager ou côté conducteur, peu importe, mais de cet engin, je ne veux pas commencer à m'exciter trop parce que je sais qu'il peut y avoir du retard. Je sais que la construction parfois se passe pas exactement comme c'était prévu. Donc oui. Mais calme, rester je dois.
Ouais.
Et puis là, je pars en France là dans 2 semaines. Donc pour l'instant, je suis plus focalisée là-dessus. Mais effectivement, c'est quelque chose dont on parle tous les jours. Et c'est quelque chose à laquelle on pense tous les jours.
Et l'enseignement dans tout ça, est-ce que ça parce que c'est un métier, mais c'est aussi une vocation globalement. L'enseignement, c'est comme tous les métiers médicaux. Enfin, il faut une dose de vocation, une dose vocationnelle pour pouvoir faire ça un peu toute une vie quand même globalement. Ça va vous manquer, vous croyez?
Une religion.
Je voulais pas dire le mot, mais est-ce que vous pensez que ça va vous manquer? Est-ce que ça vous manque déjà? Et est-ce que ça va vous manquer? Vous y avez pensé ou pas?
Alors moi,
la réponse, ça peut être non. Il y a pas de problème.
La réponse, c'est non, mais alors parce que voilà, ma réponse, elle est très honnête. Moi, je le dis, mais vraiment sans hésitation. Ça a été pour moi une vocation, effectivement, qui n'était pas du tout là au départ. Mais peu importe, la vie a fait que. Mais j'ai adoré. C'est pour ça que je parlais de religion, hein. On adore que Dieu, paraît-il. Eh bien, écoutez, moi, je vais faire l'affront de dire que j'ai adoré enseigner du premier jour au dernier jour à la dernière minute. J'ai adoré ça. Transmettre. Aider des enfants qui étaient en difficulté. Parce que les meilleurs, ma foi, ils vont avoir quelque chose de formidable. Mais ils auraient Mickey Mouse en face d'eux. Ils réussiraient pareil. Donc, aider tous ces enfants et puis les voir progresser, les voir réussir. Ça, transmettre. En fait, ça a été passionnant pendant toute une vie professionnelle. C'est fini. J'ai refermé ce chapitre.
Est-ce qu'il y a quand même un sentiment de fierté d'avoir aussi, à un autre niveau, mais défendu un peu l'enseignement à la française dans un univers qui est un enseignement très anglo-saxon, un enseignement qui est anglo-saxon, et ça, sans dire qu'on est le village gaulois qui se protège des Romains, mais il y a un peu ce sentiment quand même de dire que l'enseignement, on le fait différemment en France qu'on puisse le faire ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et est-ce qu'il y a un peu ce sentiment quand même un petit peu gaulois de te dire on a défendu une certaine idée de l'enseignement?
Oui. Plutôt peut-être le sentiment d'un devoir accompli, parce que on n'enseigne pas effectivement de la même façon, et là je ne prendrai pas parti, mais par contre ce qui est intéressant, c'est justement de montrer, alors aux enfants auxquels on enseigne bien évidemment, mais ça j'en ai déjà parlé, mais également aux collègues anglo-saxons avec lesquels on travaille main dans la main chaque jour. Eux nous montrent une autre façon de faire, à nous les Latins, les Français. Et puis nous, on leur montre autre chose. Là où il y a un sentiment effectivement de fierté, c'est lorsque un collègue australien, un membre du leadership, peu importe, dit « Oui, ben là, c'est pas une façon qu'on avait de faire et on se rend compte à quel point elle est profitable mm-hmm. aux enfants. » Qu'elle soit old school ou pas, qu'on la pense old school ou pas, ben, je pense à, par exemple, l'acquisition des tables de multiplication.
Gros sujet autour de moi.
Ben oui, parce que les tables de multiplication, alors oui, ça peut sembler ringard de connaître ces tables de multiplication par cœur, et pourtant, c'est
un outil. C'est la base de tout.
C'est pas le raisonnement.
Non, c'est la base de tout.
Quand l'enfant qui résout parce que les tables de multiplication, les connaître pour les connaître, ça n'a aucun intérêt. C'est un outil au service de la résolution et du raisonnement mathématique. Mmh. Si déjà vous n'avez pas l'outil en main, enfin je fais un parallèle avec un clou et un marteau. Hein. Si vous n'avez rien pour enfoncer le clou, vous allez vous faire très très mal à la main. Donc là voilà, ouais, les tables de multiplication, c'est l'outil. Et puis, il faut l'avoir, cet outil. Bon, ben ça y est, à Caulfield, je le sais, parce que je l'ai entendu, ce qui n'était pas le cas au début, donc il y a une vingtaine d'années, lorsque je suis arrivée. Mais lorsque j'en suis partie, j'ai entendu, il faut que les enfants connaissent leur table. Là, oui, un petit sentiment de fierté. Pour le reste, sentiment du devoir accompli, mmh. en fait.
D'accord. Toute dernière question, mais le dernier matin, quand vous vous êtes levé pour aller à votre dernière journée, c'était différent? Il y avait un sentiment différent ou vous êtes forcé de la traiter comme une journée exactement la même, sachant que à 3h30, vous étiez à la retraite?
À 2h30.
2h30, c'est encore mieux.
journée tout à fait ordinaire, jusqu'au bout. Et je n'aurais pas pu le penser avant. Il s'avère que je l'ai vécu comme ça. Je me posais des questions. Je me demandais toujours, et comment sera ce dernier jour? Voire même, au départ, je me disais, mais comment sera cette dernière année, ce dernier mois, cette dernière semaine? Et en fait, lorsque je les ai vécus, jusqu'à la dernière sonnerie, je les ai vécus comme des moments tout à fait ordinaires. Des moments de plaisir, des moments de joie. J'ai parlé à mes élèves. La seule différence, c'est qu'avant de partir, j'ai réuni mes deux classes et je leur ai dit des choses qui me tenaient à cœur, voilà, pour les accompagner alors qu'on allait se quitter quelques heures après. Mais sinon, non, vraiment, de façon tout à fait ordinaire. Voilà, j'ai refermé un livre et c'était l'heure.
Eh bien, on va vous laisser ouvrir le prochain. Merci d'être passé nous raconter un peu vos moments, votre histoire. Et puis, j'espère que vous et moi, on restera en contact, si c'est pas via l'école, simplement par téléphone,
Christophe,
par message.
Merci beaucoup et il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas bien loin. Quand je suis là, voilà. Je suis pas bien loin d'SBS et j'adore le café.
Ah ben, ça marche. Merci.
Merci, Christophe.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.